Bienvenue dans ce premier Info Club Sandwich de la semaine. En ce lundi 17 mars, je vous propose de découvrir l'interview de Sacha Kibongué, réalisée par Rémi. C'est un étudiant en master à l'UFR de Géo, présent dans les différentes initiatives écologiques et étudiantes.
Sacha, bonjour, bienvenue à l'antenne du réseau Radio Campus France.
Bonjour, merci beaucoup.
On est dans l'émission Univox. Comment je dois te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices?
Alors tout simplement, je m'appelle Sacha Kibongué, j'ai 24 ans. Actuellement, je suis en Master 2 de géographie et aménagement du territoire et je suis bénévole dans plusieurs associations autour de la transition écologique.
À Amiens, on t'identifie surtout pour ton action autour de l'écologie, du bien manger, de la nature. On peut peut-être commencer par le commencement, justement, ça te vient d'où cet attrait pour ces thématiques-là?
Alors ouais, très bien, quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de faire pousser une tomate cerise avec un kit, fais pousser toi-même ta tomate cerise, et de voir l'évolution de la plante, de passer de petit plant à grande plante qui sent la tomate quand tu la touches, etc., à fleurs puis fruits, ça a déclenché quelque chose en moi, je pense, qui a fait que je me suis dit que j'aimerais bien pouvoir en fait donner accès à cette nourriture aux gens, ou juste que j'avais pas besoin d'aller dans un supermarché pour manger en fait, tu vois. Et c'est ce rapport à la nourriture que du coup que j'ai fait au mieux pour faire évoluer. Donc tout simplement là je propose de faire des ateliers, que ce soit cuisine, des ateliers autour de la permaculture, etc. Donc voilà ce que je fais principalement.
Tu es aussi étudiant en Master 2 de géographie. Est-ce que tu pourrais me dire quel master tu as choisi pour tes études et c'est quoi le lien entre la géo et la nature, l'écologie?
Alors c'est une très bonne question. Alors du coup mon master il s'appelle Digiterre, c'est dynamique et géographie des territoires. Et le lien en fait c'est qu'en géographie c'est assez vaste, tu peux toucher un peu à tout. On a tous eu des parcours, professionnels différents. Moi, je me suis orienté vers les fermes pédagogiques et maraîchères. C'est ce qui m'a intéressé, en fait, c'est ce rapport de l'urbanisme en ville, l'agriculture en ville, quoi. Donc, en gros, c'est toute cette question de la ville. Comment nourrir les gens en ville? Quelle place de la nature en ville? Et du coup, en fait, moi j'ai suivi cette voie. Je suis allé faire un service civique pendant 9 mois dans une association qui s'appelle L'Île aux Fruits.
On y reviendra.
Où du coup, j'ai pu apprendre à justement faire du maraîchage en ville, donner des cours, des animations, etc.
Justement, la question du comment on fait pour faire de l'agriculture en ville? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de théorie, un petit peu de pistes, nous donner un petit peu les mots-clés qui jalonnent cette pratique?
Bien sûr, parce qu'en fait, c'est vrai qu'agriculture urbaine, ça peut paraître un peu deux termes qui sont opposés parce que en 2025 on se rend bien compte que la place de la nature en ville on en a tous besoin, mais des fois on ne sait pas où aller, est-ce que c'est dans les parcs, et justement pour faire de l'agriculture urbaine il faut trouver d'abord un terrain, donc il faut d'abord trouver de la place et un espace justement qui est sain, donc qui va être loin de la pollution, etc. Donc d'abord, il faut trouver un espace et surtout trouver un collectif de personnes, parce que faire de l'agriculture urbaine tout seul, c'est possible par exemple sur son petit balcon, mais c'est à moindre échelle. Là, on parle de plus de réseaux de jardins partagés, de réseaux de jardins justement communs où les gens s'entraident et voilà quoi.
Justement, tu fais partie de Géosystème, qui est l'asso des étudiants de géographie de l'UPJV, donc l'université Picardie Jules Verne, c'est l'université de chez nous en Picardie. Vous avez notamment lancé un jardin partagé, solidaire. Est-ce que tu peux me raconter ce projet? Je précise juste aux auditeurs et aux auditrices que ce jardin se trouve sur les remparts de la citadelle d'Amiens. Là, on est actuellement dans ce qu'on appelait tout à l'heure dans ton jardin. On est sur les remparts avec la vue sur toute la ville. Et il y a tes petits potagers qui sont là, en tout cas ceux de l'association Géosystème. Est-ce que tu peux me raconter ça?
Ouais, c'est ça. Écoute, c'est un projet qui est né quasiment en même temps que la Citadelle, quoi. Ça fait faire 5 ans que la Citadelle existe, je pense. Et tout simplement, il y avait une ambition des géographes et de l'assaut de géographie de faire un potager solidaire partagé. Et d'abord, on a essayé. On n'a pas réussi pour des questions de... comment on appelle ça? Des questions pratiques, en fait, c'est qu'on a commencé avec des bacs de 1 mètre carré sur 1 mètre carré. Et du coup, c'était tout petit. Où en fait, l'été, on était deux à se relayer. On n'avait pas d'accès à l'eau. Et du coup, on a juste fait pousser quelques salades qui ont pu être mangées par certaines personnes qui passaient par là. Et après, le projet a été mis en stand-by jusqu'à ce qu'on ait un nouveau bureau qui, du coup, a fait un projet avec le Jardin des Plantes, avec le Crous et avec l'UPJV. Et on décidait de faire une quinzaine au début de parcelles de 8 mètres carrés et en fait de remplir ces parcelles de terre et de donner des cours avec le Jardin des Plantes, avec l'île aux fruits aussi notamment, aux étudiants qui étaient intéressés. Donc, et après la seconde année, donc on a pu refaire une dizaine de parcelles en plus et permettre du coup à maintenant on est à peu près 30 parcelles quoi.
Quel type de pratique agricole vous allez développer sur ces parcelles? Quels ont été vos choix?
Alors là pour l'instant c'est expérimental, c'est un peu un jardin pédagogique expérimental parce que aucune personne du coup dans l'association n'a vraiment d'agrégation à faire du maraîchage ou quoi que ce soit. Moi j'ai simplement reçu des cours et pu participer à droite à gauche, mais là pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on apprend tous ensemble, on se réunit une fois par mois avec différents plants qu'on achète. Par exemple en cette saison là demain on a de l'ail, des échalotes, etc., des oignons qui poussent. Du coup on va apprendre à les planter ensemble pour voir comment ça se passe. C'est vraiment une question de, c'est comme un tiers lieu de pédagogie autour du jardinage urbain quoi.
Qui vient les récolter ces fruits et légumes?
Alors ces fruits et légumes c'est les étudiants qui peuvent venir les récolter, que ce soit les aromates ou les fruits et légumes qui arrivent à terme. Le but c'est que ce soit les étudiants qui récupèrent ces denrées.
Et tu travailles la gratuité, on est d'accord?
Exactement, le but c'est que c'est surtout un jardin qui était basé au début autour de la lutte contre la précarité et ça l'est toujours. En fait tous ces légumes vont pouvoir être redistribués, que ce soit à des étudiants qui habitent à proximité ou que ce soit à des gens qui passent, etc. L'important c'est vraiment que ces légumes soient consommés par des gens, tout simplement.
Les plants, comment tu te débrouilles pour les avoir? Est-ce que tu vas au supermarché, t'achètes des graines, tu les jettes? Comment tu te débrouilles pour récupérer ces différentes semences?
Alors justement, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une, c'est que, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle de l'upcycling de légumes. Donc on va dans des fermes maraîchères qui ont besoin de bénévolat. On leur enlève du coup, eux, leurs plants qui donnent moins et en fait qui peuvent toujours donner mais qui n'ont pas cette logique de vente. Donc on les reprend. On les replante et en fait on essaye de voir si ça marche et souvent, eh ben pour la plupart, les poireaux, les choux, etc. ça repart. Et sinon après on va aussi dans des magasins comme Jardiland et tout simplement en fait on achète les plants de saison, on se fait conseiller par les personnes qui sont là autour de nous. Ou sinon ça vient aussi de tout à chacun, certaines personnes qui participent à l'association ramènent avec leurs grands-parents qui jardinent eux-mêmes, etc. Ils ramènent des plants, que ce soit de tomates, que ce soit de fraises, et en fait c'est ouvert à tout le monde quoi.
Gratuit, solidaire,
c'est ça.
Écologique,
c'est ça.
Je pense que c'est les mots aussi qui pourraient qualifier un petit peu ce projet. Ça a été quoi les retours de l'université Picardie-Jules Verne quand tu as lancé le projet, enfin quand vous avez lancé le projet, parce que c'est important de le préciser,
ouais,
t'es pas tout seul non plus.
Absolument pas.
Et voilà, quel a été leur retour? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vous ont accompagné? Comment ça s'est passé avec l'université?
Alors au départ l'université elle était bien sûr contente qu'on puisse offrir ce genre de projet parce que ça coche du coup trois cases, en tout cas tout ce qui est lutte contre l'isolement social, lutte contre la précarité et lutte pour justement l'écologie et contre l'érosion de la biodiversité. Donc ce projet là il leur a plu. Après concrètement il a mis du temps à se mettre en place parce que c'est toute une question de gérer les saisons, gérer l'approvisionnement en eau, etc. Et en fait je pense que concrètement, comment bien expliquer ça? Pendant un an, le projet a été un peu en stand-by. En fait, on a laissé un peu les parcelles être en friche. Et du coup, on a repris le temps de restructurer le projet parce que de base, le projet, c'est un projet de jardin partagé où tu peux, pour 5 euros, acheter une parcelle et nous, on te fournit toutes les graines, on te fournit tous les outils et on te fournit aussi l'animation. Mais en fait, cette notion d'acheter des parcelles à 5 euros n'a pas marché. Et en fait, c'est pour ça qu'on a retransformé le projet en grand jardin partagé où chacun peut cultiver une parcelle propre si cette personne a envie, ou partager en fait vraiment l'ensemble des 30 parcelles. Donc là, le projet il se fait entendre. Il y a beaucoup de gens qui en entendent parler simplement parce qu'ils sont venus se balader sur les pourtours de la citadelle.
Parce que c'est un espace partagé aussi commun. Il y a des promeneurs ici, il y a des étudiants, mais pas que. Il y a des gens qui viennent promener leurs chiens. Il y a des familles qui viennent le dimanche aussi.
Exactement.
Il y a plein de gens.
De base, la citadelle, ça a été créé justement pour réunir le quartier nord et le quartier centre. Et en fait, c'est ça qui peut se passer des fois. Maintenant qu'en plus, on a des nouvelles tables et des chaises, on peut juste s'asseoir comme ça aujourd'hui et profiter d'un lieu comme ça.
Un second engagement sur lequel on peut te voir, c'est le rôle que tu joues auprès de la FEP, qui est l'un des syndicats étudiants amiénois, et notamment au sein de l'Agorae, qui est leur marché solidaire. Est-ce que tu peux me présenter le rôle que tu joues dans ce dispositif, et puis aussi me préciser un petit peu ce qu'est exactement l'Agorae?
Alors, pour préciser ce que c'est que l'Agorae, c'est une épicerie solidaire étudiante qui a été ouverte par la FAGE. Et ça fait à peu près 35 ans, je pense, que ça existe. J'ai pas les chiffres exactement, mais ce que je peux résumer, c'est que c'est surtout une épicerie où tu vas trouver à 10% du prix du marché, par exemple, la farine, au lieu de coûter 1 euro, elle va te coûter 10 centimes. Les pâtes, c'est pareil. En fait, on te fait une carte de bénéficiaire. C'est fait par une assistante sociale, du coup, qui regarde combien par mois il va te rester à vivre. Et après, ces personnes-là obtiennent une carte et peuvent venir justement avoir des denrées alimentaires ou des denrées d'hygiène, etc., à moindre coût. Là, par exemple, je sais que c'est une période difficile parce que l'Agorae, on a bientôt 800 bénéficiaires, alors qu'en fait, on peut vraiment au maximum en accueillir de base 500. Mais du coup, justement, tous ces gens, toute cette équipe de la FAEP supporte ce projet et justement veut faire vivre cette Agorae avec des services civiques, etc. Et moi, mon rôle dans l'Agorae, dans la FAEP, c'est surtout la transition écologique. Donc je participe à la sensibilisation autour de mieux manger, comment mieux manger, par exemple en faisant des cours de cuisine chaque mois avec les paniers de fruits et légumes qu'on a à disponibilité de tous les étudiants, et pas seulement les étudiants qui sont les plus précaires, tous les étudiants. On prend du coup l'ensemble de ce qu'il y a dans ce panier, que ce soit pommes de terre, que ce soit poireaux, que ce soit radis, etc. Et on apprend à le cuisiner ensemble chaque mois. Et en fait, c'est un petit début, mais c'est déjà quelque chose qui permet de rapprocher de l'alimentation saine, bio et locale aux étudiants. Et je participais, quand je travaillais justement avec une association qui s'appelle L'Île aux Fruits, à faire pousser ces fruits et légumes, et du coup ce qui me permettait de mettre en valeur à la fois le travail horticole du maraîchage et à la fois du coup cette consommation de produits bio et locaux, et surtout pas cher, parce que ces paniers coûtent 2 euros au lieu de 9 euros.
Justement, c'est quoi ta définition du mieux manger, du bien manger? Qu'est-ce qu'on met derrière ces notions?
Alors, ma définition de mieux manger, c'est surtout manger coloré, manger varié, et éviter tout ce qui va être industriel ou industrialisé, ou tout ce qui est produit transformé, parce qu'on se rend compte petit à petit que ça finit par donner des cancers, de nombreux types de maladies, en fait, que ce soit les sucres, que ce soit les graisses, etc. Donc, mieux manger, c'est déjà réapprendre à connaître comment poussent les légumes, réapprendre à connaître des recettes simples et efficaces, et tout simplement trouver le temps de cuisiner, trouver le temps de faire des plats qui sont, en fait, plus on va manger de verre, moins on aura le cancer. Je sais pas s'il y a des études qui le prouvent, mais techniquement c'est ce en quoi je crois. C'est permettre à ces étudiants, à ces personnes, tout simplement, de manger des produits qui sont avec le moins de pesticides possible, qui sont aussi bons pour la planète en venant de producteurs locaux, etc., en évitant de manger des choses qui font 5 fois le tour de la planète. Et voilà, donc mieux manger, c'est vraiment renouer cette relation à la nourriture, réapprendre non seulement à faire pousser sa nourriture, mais à la cuisiner et aussi à prendre plaisir. C'est ça pour moi.
Un petit peu de pédagogie aussi. Là, on est au début du mois de mars, on est à la fin de l'hiver, le printemps arrive. C'est quoi là les légumes et les fruits qu'on peut manger actuellement? Et puis si tu as une petite recette à nous conseiller, n'hésite pas.
Alors, écoutez, ce qu'on peut manger encore actuellement, moi sur le marché, sur les marchés auxquels je vais, il y a encore des potimarrons. Écoutez, il y a à peine hier, j'ai appris à faire une petite recette de potimarrons. Là justement, on arrive sur la fin des potimarrons. Mais s'il y en a encore, je vous conseille de les prendre, les couper en tranches, mettre dans un verre, vous mettez un peu de miel, un peu d'huile d'olive, un peu d'épices, etc. Et vous badigeonnez sur ces tranches de potimarrons. Vous les mettez 30 minutes au four avec un peu de parmesan juste au-dessus. Et ça vous fait un bon petit plat. Tout simplement, c'est des choses comme ça que je
des
conseille.
Des choses simples aussi, c'est une forme de retour à des choses très simples.
C'est ça, un peu comme, j'avais l'impression un peu hier de manger comme un papy, quoi, parce que tout ce qui est potimarron, etc., des fois on n'a plus l'habitude. Nous d'habitude, c'est quoi? C'est des frites de chez McDo ou c'est un bon kebab, mais en fait, voilà, quand on recuisine, ça change la vie. En plus, c'est des belles assiettes et surtout, on apprend des choses. C'est pour ça que j'invite les gens à cuisiner ensemble quand ils peuvent le faire, parce que manger, c'est surtout quelque chose de social. Mais c'est aussi un bonheur de se faire à manger tout seul, quoi. Un petit plaisir, réapprendre des nouvelles recettes, goûter des nouvelles choses, surtout que les goûts évoluent en fonction de l'âge, etc. Donc, il faut apprendre à cuisiner, quoi.
Et on peut aller encore plus loin et récupérer les graines des potimarrons, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, t'es venu avec.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu vas faire avec ce sac de graines?
Alors c'est vrai que c'est un hasard que j'en parle et que j'ai les graines aujourd'hui. Alors tout simplement, quand on a un plan souvent bio et en tout cas qui peut se ressemer, on peut prendre les graines et tenter de les replanter. C'est quelque chose que du coup j'ai pu faire dans ce jardin, des expériences d'agriculture en fait. Et là j'ai à peu près une centaine de graines qui viennent d'un seul potimarron et je vais les planter. Alors est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elles vont toutes être mangées? Est-ce que c'est la bonne saison? À l'heure du changement climatique et de la transition écologique, essayons. Donc juste après on va pouvoir aller les mettre en terre et voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que l'année dernière j'ai pu faire pousser des citrouilles ou des potimarrons de près de 10 kg en fait, en n'ayant pas fait exprès, tout simplement en essayant, et la nature en fait se débrouille très bien toute seule, bien sûr quand c'est la bonne saison.
Tu parles d'expérimentation, est-ce qu'on peut aussi parler d'innovation? Parce que parfois je sais que toi t'es là à essayer, tu me racontais l'histoire la dernière fois que sur ton vélo t'as installé un système qui permet de distribuer des fruits, des légumes. T'en es où là-dessus? Est-ce que ce terme te parle aussi?
Alors ouais, innovation sociale, surtout à l'ère de la transition écologique, on vit dans un monde où avec tout ce qui est capital, la peur de la fin de l'espèce, etc. On vit dans un monde qui a besoin d'innovation et surtout de nouveaux récits, de nouvelles narrations autour de comment refaire du social, comment refaire justement, là tu parlais de ce petit vélo à légumes. En fait, quand j'étais maraîcher et que j'avais accès à un surplus de production, et ben, au lieu de les refaire composter ou quoi que ce soit, je l'ai donné gratuitement. Je prenais mon petit vélo, j'attachais ça comme je pouvais et je fonçais sur Saint-Leu, etc. Je distribuais à qui veut des courgettes, des carottes, et les gens étaient super contents. C'est vraiment cette innovation, c'est ce rapport que les gens ont à l'alimentation. En fait, c'est ce plaisir qu'on ne s'en rend pas compte qu'un jeune va pouvoir avoir quand on va lui donner des légumes bio, frais, en fait. Et cette innovation, c'est aussi cette question du goût, parce que les légumes, en tout cas de ce que j'ai eu comme retour, les légumes qui sont bio et locaux, etc., ont un goût différent que les légumes achetés en supermarché. Ils sont... Et donc, c'est cette innovation que les gens ressentent, quoi. Donc, oui.
Et justement, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler ensemble, hein, je le précise aux auditeurs et aux auditrices, on s'est déjà rencontrés, on a déjà pas mal discuté de tes projets. Toi, tu t'en es où justement vis-à-vis de ce que tu appelles le capitalisme, mais de tes engagements? Parce que je te vois souvent engagé par le faire, mais un peu moins par le parler. Tu vois, t'es peut-être un peu moins visible sur des prises de position via des paroles, mais est-ce que tu te revendiques militant? Est-ce que tu te revendiques politisé? Et aussi, quel est ton rapport aussi à notre économie de marché?
Alors, c'est une grande question. Moi, j'ai toujours évité de rentrer dans des questions politiques purement parlementaires. Je rentre surtout dans la politique de, on va dire, l'action. Mmh. Ou du coup, mais bien sûr, l'action passe aussi par la parole. Là, par exemple, cette fin d'après-midi, je vais pouvoir avoir rendez-vous avec le conseil municipal jeunesse, enfin quelque chose qui ressemble à ça, avec la mairie d'Amiens, où justement on va discuter de attractivité territoriale et d'environnement. En fait, ces choses-là de discussion, je les fais plus en interne. Je me permets plus de prendre du recul sur comment changer les choses. Et en fait, en ayant fait quelques années d'association, je me rends compte que si on s'assoit trop longtemps et qu'on discute trop longtemps autour de « oui, venez, on fait ça, venez, on fait ça, venez, on fait ça, ouais, mais on a besoin d'argent », on va rien faire. Enfin, on fait beaucoup moins que si on s'assoit, qu'on se dit « qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» et on le fait. Donc c'est pour ça que je suis bénévole dans différentes associations comme les Robines d'Ébène, qui justement, là en parlant de modèle économique social, elles m'ont ouvert les yeux, ils et elles m'ont ouvert les yeux sur une nouvelle manière de vivre, en fait, tout simplement. Les Robines d'Ébène, c'est une asso qui redonne 100% gratuitement, pour 2 euros à l'année bien sûr, 100% gratuitement des affaires qui sont 100% récupérées, comme que ce soit des friperies 100% gratuites avec des vêtements qui sont déjà, en fait, on est déjà dans une société qui produit, on a tous des vêtements en trop, et ben là, elle propose tout simplement de les récupérer, les laver et de les redonner à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc ça c'est incroyable. Elles font pareil pour des denrées alimentaires qui vont être gâchées. Différents services les appellent et leur confient ces denrées qui sont redistribuées des fois dans la soirée même, etc. Donc c'est tout circuit vraiment circulaire, court, avec des personnes qui sont bénévoles et qui redistribuent. En fait, c'est cette redistribution des richesses. C'est ça qui me fait croire en fait en un monde meilleur. Il y a aussi toute cette partie avec les plantes. Où en fait il y a une team qui s'appelle Team Sauf qui pousse, qui se réunit souvent les samedis et les dimanches à Camon, etc., pour en fait récupérer des plantes, que ce soit à Jardiland, à Truffaut ou quoi que ce soit, et les soigner, parce qu'elles vont être gâchées, ces plantes qui sont à peine en train de flétrir, etc. Elles sont récupérées, soignées et redistribuées, tout ça gratuitement. Et en fait c'est ce modèle de récupération et de redistribution avec les déchets de la société. En fait on peut se repartager tout ça, quoi.
L'idée, c'est de venir apporter un petit peu ton énergie, ton expertise à qui en a envie, finalement. Un autre engagement, je pense que c'est le dernier, c'était l'idée aussi de t'inviter ici, c'est de présenter les différentes structures liées à l'écologie et à la transition écologique à Amiens. Elles sont nombreuses et c'est vrai que tu as un pied dans quasiment toutes ces assos, pas toutes, mais en tout cas dans un bon nombre de ces structures. Il y a l'île aux fruits. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce projet et nous dire ce que toi tu faisais au sein de l'île aux fruits?
Avec plaisir. Alors l'île aux fruits, j'ai été en service civique là-bas pendant 9 mois. C'est à la fois un marché, une ferme maraîchère qui produit des légumes bio et locaux et qui les vend au 325 rue de Verdun le jeudi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Et en fait, ça permet d'avoir accès à des produits locaux variés.
De qualité,
c'est ça.
En circuit court.
Des bons fromages, etc. en circuit court. Et en fait, c'est un endroit où tu peux venir te poser les jeudis, notamment avec des concerts et tout. Et en fait, c'est on appelait ça écolieu des ortillonnages. C'est un espace sympa où tu peux juste te retrouver avec du coup différentes personnes autour de le bien manger, le bien vivre.
Qui est un peu aussi un incontournable quand on connaît pas Amiens et qu'on
Exactement.
Vient à Amiens pour la première fois. Je pense qu'il faut pas hésiter à aller faire un tour de l'île aux fruits. Ça résume bien aussi ce que peut être Amiens sous cette visière là, un petit peu, enfin sous cette vision là de l'écologie sociale solidaire.
C'est ça, tout ce qui est autour de justement mieux vivre, mieux manger. Bah justement tout à l'heure je disais que c'est eux qui font les paniers à 2 euros pour les étudiants, mais ils font pas que ça, ils font aussi des paniers pour les CCAS et différentes personnes. On accueille aussi différents groupes du CCAS pour leur faire des cours de cuisine, des cours de cuisine où justement ils apprennent à mieux manger, etc. C'est un super espace, quoi. J'ai adoré travailler là-bas et on a même pu justement participer à ouvrir des jardins dans les HLM à Étouvie, etc., ce qui est une expérience
qui est un des quartiers d'Amiens.
C'est ça, qui est un des quartiers d'Amiens malheureusement un peu défavorisé et qui fait face à des difficultés autour de la drogue et l'insalubrité. Et bah pendant ces quelques mois où on a pu travailler, où j'ai pu travailler avec ces gens, et bah on a pu faire découvrir des fraises aux enfants, on a pu faire découvrir des courgettes, on a pu leur faire pousser des tomates cerises en plein quartier.
Quel a été le retour justement des habitants d'Étouvie quand ils t'ont vu débarquer et monter ce projet?
Et ils étaient justement, ça fait c'est une association qui s'appelle LAPAP qui monte ce projet depuis des années avec l'île aux fruits, qui se battait pour que ça devienne réalité. Et là on a pu commencer à voir les premiers bacs. Et en fait, ça faisait du bien parce qu'en été, les habitants, au lieu de juste être en bas, ils pouvaient participer avec leurs enfants à faire pousser des légumes, mettre les mains dans la terre. Oh, c'est quoi ça? Des vers de terre. Oh, c'est quoi ça? Des fleurs. Et surtout, un retour qui nous a fait plaisir, c'est que le gardien d'immeuble nous a partagé que depuis qu'on a fait ces aménagements urbains avec un peu de végétalisation, y a beaucoup moins de dégradation, beaucoup moins de choses sont jetées par les fenêtres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, quand ils regardaient par la fenêtre, au lieu de voir que du béton, ils voyaient leurs petits frères et leurs petites sœurs qui étaient en train de jouer, à planter des fleurs, à cueillir des fraises, des framboises, etc. Et donc, il y a eu même si c'était un impact peut-être de courte durée, je ne sais pas si ça continue encore exactement, mais il y a eu un impact, en fait. Et aussi des petits loulous et des petites louloutes qui, maintenant, veulent devenir jardiniers ou qu'arrêtaient leurs parents, qui disaient « Non, faut pas arracher ça, cette plante, elle sert à ça. Oh non, maman, plus tard, je veux devenir jardinier. » C'est des belles petites choses comme ça qui nous font croire en l'avenir, quoi, parce que c'est par les enfants que le monde va pouvoir changer aussi, qu'on va leur réussir à les éduquer, leur permettre de respecter, leur apprendre aussi à partager, que soit parce qu'en fait les fraises ça met longtemps à pousser. Quand tu expliques ça aux enfants, bah, faut leur expliquer que là, quand la première fraise elle sera là, bah, tu pourras la couper en deux et la partager avec ton copain. T'es pas obligé d'attendre devant le fraisier qui pousse et l'arracher. Enfin bref.
À côté de tous ces engagements liés à l'écologie, t'es aussi artiste. Et peut-être pour conclure ce sujet, est-ce que tu peux nous parler de ta philosophie et de comment tu envisages la vie en général?
Ouais. La vie, je l'envisage belle. J'ai envie de croire justement en un avenir meilleur, et c'est ce que je raconte à travers des textes de rap, des textes de poésie, c'est ce que je raconte à travers des graphes dans la rue, c'est ce que je raconte au quotidien en fait. C'est cette question de face à la difficulté de la vie, comment est-ce qu'on peut s'en sortir et pourquoi est-ce qu'on a envie de s'en sortir en fait? C'est toute cette question d'avoir une famille, d'avoir des amis, de se soutenir dans les moments difficiles. Et c'est ce que je prône en fait, c'est cet espoir de oui, la vie est difficile, oui, la vie est moche pour beaucoup, beaucoup de gens, mais c'est à nous de pouvoir la rendre belle, pour nous déjà, en premier, pour qu'on ait ce choix de continuer à vivre, et surtout pour montrer l'exemple à nos petits frères, à nos petites sœurs. Qui garde espoir que même si on est né dans un monde qui se dit souvent à l'apocalypse, même si on vit la fin du monde, et bah, créons un nouveau monde.
Et la vie est belle.
Et la vie est belle.
Merci à toi Sacha, puis à la prochaine.
Merci beaucoup.
Écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actu locale et associative. Après I'm Alive de l'incroyable Pes Dito, je vous propose de passer aux informations d'aujourd'hui. Alors d'abord, un petit spectacle dans le cadre du Printemps des Poètes, Rhapsody, est proposé par la compagnie Yaena ce jeudi 20 mars à 20h30 au Chaudron, scène des étudiants à la résidence du Castillon. Voici ce dont parle la pièce. Parce que l'art aussi a plusieurs terres, Mavicana Badinga interprétera des poèmes africains sur fond de musique électronique et de chants a cappella. Cette forme courte, lue et chantée est destinée à pouvoir se promener partout, en amont des représentations de la création J'ai plusieurs terres, comme de façon autonome. Elle permet à l'artiste d'explorer et de partager un répertoire peu connu et évoqué, qui s'inscrit pourtant dans le patrimoine littéraire mondial. C'est un événement gratuit pour les étudiants et sur réservation sur le site du Crous. Sinon, le tarif plein est de 8 euros. Et puis, si vous avez bien fait attention, aujourd'hui, on sort les trèfles, on met du verre et on trinque à l'une des fêtes les plus populaires du monde, la Saint-Patrick. Mais avant de lever nos verres, petit retour sur l'histoire de cette célébration qui ne se limite pas à boire de la bière en portant un chapeau ridicule. Tout commence au 5e siècle avec un certain Maewyn Sukat. Né en Grande-Bretagne, il est enlevé par des pirates irlandais et devient esclave. Après plusieurs années, il réussit à s'échapper, rentre chez lui, mais il décide de revenir en Irlande pour convertir la population au christianisme. Alors il fonde des églises, des monastères et devient une figure majeure du pays. À sa mort le 17 mars 461, il est canonisé et devient le saint patron de l'Irlande. Alors la Saint-Patrick, elle devient une fête religieuse, mais rapidement, elle prend quand même une toute autre dimension. Symbole national, elle est célébrée par les Irlandais du monde entier, et bien sûr, quelques traditions s'imposent. Le trèfle, par exemple. Selon la légende, Patrick l'utilisait pour expliquer la Trinité chrétienne. Aujourd'hui, c'est l'emblème officiel du pays. Autre incontournable, la couleur verte. Pourtant, à l'origine, la couleur associée à Saint-Patrick était le bleu. Mais le vert, présent sur le drapeau irlandais et symbole des paysages du pays, a fini par s'imposer. De nos jours, la Saint-Patrick, c'est une explosion de festivités. En Irlande, c'est un jour férié avec des défilés gigantesques, notamment à Dublin. Aux États-Unis, où l'immigration irlandaise a été massive, les villes organisent des défilés spectaculaires. Et en France aussi, les pubs se remplissent, on sort les pintes de Guinness et on se laisse porter par l'ambiance festive. Alors moi, je vous souhaite une bonne Saint-Patrick aux 70 millions de descendants et descendantes irlandaises. Et bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Info Club Sandwich, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur une suggestion musicale de Rémi. Quoi de neuf, Scooby-Doo de Bill the Dog. À demain.
On va résoudre ce mystère. Les indices après tout conduisent à toi, mon chou. Quoi de neuf, Scooby-Doo. Quoi de neuf, Scooby-Doo. Force-toi, c'est tout. Tu dois résoudre ce mystère. Où es-tu, Scooby-Doo? Nous, on te suit partout. Quoi de neuf, Scooby-Doo. Par répit, il faut trouver d'autres indices. Et des biscuits, t'attends au bout de la piste. Quoi de Scooby-Doo, nous on te suit partout. Tu vas résoudre ce mystère. Les indices après tout conduisent à toi, mon chou. Quoi de Scooby-Doo.